La sexploratrice.
La sexploratrice. Avec Mel Trudel.
Radio X.
Retour avec la sexploratrice Mel et Max, philosophe Lacoste.
Oh, le philosophe. Et mitaine.
J'aime ça.
Veux-tu que je te fasse un proverbe?
Ah oui, donc.
Quand les feuilles tombent, quelque part, quelqu'un naît. Bon, on va leur travailler.
Oui. Ouais, bon. J'aime ça quand même. Max, c'est le moment de la chronique littéraire pour humains investis.
La chronique littéraire avec Laurence C. Germain.
Dans ma bubble.
Wouhou!
Salut Laurence.
Laurence C. Germain, bonsoir.
Oh, bonsoir, je suis tellement contente de vous retrouver.
Et nous donc?
Hey, là, ce soir, on a un gros plan de match, OK?
Oui, mais juste avant. Oui. Laurence?
Oui.
Oh, t'es humoriste?
Ah, oh, ça met une pression, tout ça. Ben, écoute.
Ben, écoute, moi, là, on me considère comme un philosophe et j'ai fait un proverbe. Alors, fais-nous une blague. Non, c'est pas vrai.
Non, c'est
il n'y a rien de pire que de demander à un humoriste de faire une blague.
À vous, hein. C'est un peu comme le bouton de tout le monde.
Non,
mais est-ce que je suis humoriste ou je commence le stand-up? Ça, c'est vrai. Est-ce que je suis humoriste? On n'est pas encore rendu
ben,
là.
Vous avez tout le syndrome d'imposteur, de toute façon, là, mais.
Mais là, Mel, c'est parce que tu voulais souligner que je commence le stand-up.
Oui.
Puis que là, je commence à en faire pas mal.
C'est mais ça, au bordel même!
Ben oui, t'as été impressionnée.
Ben oui, vraiment. Je veux dire, je connais beaucoup de gens dans le milieu, c'est pas évident. Donc moi, non. Je veux savoir comment ça a été.
Ça a super bien été. Tu sais, l'open mic au bordel, c'est une institution, hein,
ben
le
oui.
Bordel Comedy Club. Mais non, super belles expériences jusqu'à présent. Les scènes que je fais, là, tu sais, je suis vraiment dans l'apprentissage et c'est un grand chaos sur scène, mais on a du fun. Puis,
c'est important. Ben,
c'est l'important, puis pour vrai, j'ai vraiment la piqûre, fait que là, j'essaie qu'à chaque mois, j'aille des scènes différentes, et peut-être que, Max, Mel, je viendrai à Québec, parce qu'il paraît qu'à la Ninkasi, il y a des soirées.
Oui, les soirées, bien sûr, il y a le Comédia aussi, là, qui s'en vient bientôt, je sais pas, je pense qu'ils font des soirées, tout ça, ben oui, let's go!
C'est ça, je voulais juste à dire à vous, aux auditeurs, peut-être que vous allez me voir dans un stand-up près de chez vous.
Pourquoi pas? On pourrait même inviter les auditeurs à aller te voir avant mon show!
Pourquoi pas?
Des affaires de même.
Hey, on en a-tu des projets?
On en a plein.
Voilà. Bon, ben, je suis très heureuse pour toi. Je te souhaite une magnifique carrière dans l'humour. En fait, de ce qu'on connaît de toi jusqu'ici, je pense que ça devrait bien aller. Mais là, je veux te voir sur scène maintenant.
Bon, fait que là, j'ai l'impression d'être très drôle dans ma chronique littéraire. Mais.
non, chaque chose en son temps. Là, pas de pression d'être drôle, mais.
Ouais.
T'as une pression d'être intéressante, non?
Oui, c'est ça. Puis ça, cette pression-là, je la prends, puis garde, ça va bien aller.
Mais ça va toujours super bien. Fait qu'aujourd'hui, tu veux nous présenter un livre particulier. Il y a comme plusieurs livres dans ce livre-là.
Bien, c'est parce que c'est tellement... En fait, c'est la plus longue étude faite sur l'être humain et son développement, OK? Et ça s'appelle « The Good Life ». Le titre complet, c'est ça. « The Good Life », deux points, ce que nous apprend la plus longue étude scientifique sur le bonheur et la santé. Et ça a été écrit par Robert Waldinger et Mark Schultz, qui sont tous les deux, bien sûr, vous comprendrez, des chercheurs. Et c'est l'étude de Harvard sur le développement des adultes.
Harvard!
Ouais, le petit effet sonore, j'adore. Et ça existe en fait, cette étude-là, elle a commencé en 1938. On parle, OK, de 724 individus et 1300 de leurs descendants. Donc, 8 décennies et 3 générations pour comprendre sur quoi repose le bonheur, la santé de l'être humain. Hein? Et c'est
sur
pour ça que...
8 décennies?
Non, mais oui, exactement. Et ça veut dire que des chercheurs se sont comme alterné l'étude. Là.
Ben oui, c'est ça. Puis je veux dire, la technologie a sûrement un impact aussi là-dessus. Là.
Ah non, mais
clairement.
C'est riche, là. Chaque chapitre est comme un livre en soi. Et c'est pour ça que ça a été tellement ardu pour moi de lire ça. J'ai plein d'outils à vous parler parce que ça a été un livre vraiment trop, trop volumineux pour
mais
ce que
j'imagine,
je fais,
mais c'est vraiment intéressant. On en a parlé à plusieurs reprises, toi et moi, Mel, dans l'émission, à savoir si les mots étaient générationnels. Est-ce que ça se transportait, est-ce que ça se transférait de parent à l'enfant, ou est-ce que parfois le bonheur et ou le malheur et ou la dépression étaient dans les gènes? Donc, cette étude-là a abordé ça aussi par la bande, j'imagine.
100%. Puis ce qui est vraiment intéressant, OK, c'est que, en fait, moi, j'ai essayé de vous résumer aujourd'hui ma chronique. Je ne pouvais pas aller dans tous les chapitres. Vous comprendrez qu'on sera encore là demain matin. Mm-hmm. Je vous adore, mais tu sais, ça serait peut-être un petit peu intense. Donc, j'ai résumé ça
en une demi-heure.
C'est ça, PS, Laurence, le temps. Toujours mon enjeu. Mais c'est ça, on a trois idées clés qui ressortent de cette étude-là, puis je vais vous en parler. Mais tu sais, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a interrogé à travers cette étude-là des personnes âgées pour savoir c'est quoi qu'ils regrettaient le plus, tu sais.
Oui.
De leur vie, finalement. Puis il y a des réponses qui sont ressorties, qui ont été assez populaires. Mais avant que je vous donne justement le résultat de la recherche par rapport à ça, vous, qu'est-ce que vous pensez que les gens ont dit quand on parlait des plus grands regrets?
Les gens travaillent trop, veulent, regrettent de ne pas avoir passé plus de temps avec leurs proches et de dire « je t'aime ».
Tu l'as lu le livre? T'as lu le livre?
Non, mais j'ai lu des études par rapport à ça.
Non. Mais Mel, elle est toujours là, genre, elle a plus. Là. Mel, c'est
non, mais je lis beaucoup de choses. Je lis beaucoup. Moi, je lis, en fait, j'ai un petit problème. Là. Je lis trois livres en même temps.
Puis mon chum
doit être complètement étourdi. Je commence un livre, puis on dirait. Puis là, j'ai un autre livre à côté, puis là, oups, je le ferme, j'en rouvre un autre.
Mais
ça, c'est mes soirées chez nous. J'ai fini, mais c'est long.
Ouais.
C'est long parce que j'en lis jamais un seul à la fois. Mais c'est tous des livres qui portent sur des trucs différents, tu sais. Donc, ouais, c'est ça.
C'est pour ça que tu es une bible de connaissances. Parce qu'à chaque fois que je fais ma chronique, je me dis toujours, mon Dieu, Mel, tu pourrais la faire à ma place.
Mais non! Mais non, tu m'apprends plein de choses aussi.
Oui,
là.
Je vous apporte une petite saveur.
Vraiment.
Là, je viens épicer votre duo, c'est comme rien.
Mais toi, Max, tu penses que c'est quoi?
Ben, je m'enlignerais dans ta sphère, dans ta tangente. Vraiment, je pense que l'amour des proches, puis chez les hommes, assurément une femme là-dedans dans les regrets.
Ah ouais?
Ouais.
Genre de ne pas avoir assez bien aimé les femmes de votre vie?
Ouais, peut-être. Mmh. Un regret par rapport à une femme, ou peut-être une femme, un regret par rapport à un homme aussi. J'ai l'impression que l'amour vient jouer pour beaucoup dans les regrets.
Bien, c'est vraiment intéressant parce que, d'une part, Mel, tu avais raison, encore une fois. Donc, c'est sûr que le regret le plus partagé par les personnes qui ont été étudiées, c'était vraiment d'avoir trop consacrer de temps au travail au détriment du temps passé avec les proches. Donc, bonne réponse.
Ça, là, ça c'est fou parce qu'on le sait. On le sait qu'on travaille trop. On le sait que... Mais c'est comme si la majorité des gens... Moi, j'ai réussi à le comprendre que le bonheur, c'est ici et maintenant. Là, mais la grande majorité des gens là, passent leur vie à courir après le bonheur plutôt que de le vivre. Donc, ils vont être heureux quand ils vont avoir leur maison. Ils vont être heureux, là, ils ont leur maison, ils vont être heureux quand ils vont avoir leurs enfants. Ils vont être heureux quand ils vont changer de job, une meilleure job, un meilleur poste. Ils vont être heureux quand ils vont posséder un chalet. Ils vont être heureux quand ils passent leur vie à attendre et à avoir hâte à plutôt que d'apprécier. Et ça, c'est beaucoup dû à l'adaptation hédonique.
Ça, exactement. Là. Et ça, c'est un mot que tu nous avais dit dans l'autre chronique que moi, j'avais faite avec vous. Et je me rappelle que c'était un très beau mot, ça. Puis ça nous avait tous impressionnés.
Mais c'est qu'on finit par s'habituer à tout, puis on a toujours hâte à plus. L'humain a tendance à apprécier, à désirer ce qu'il n'a pas plutôt que d'apprécier ce qu'il a. Puis c'est tellement triste.
Oui, mais je pense aussi qu'on se définit par ce qu'on fait dans la vie. Et on devient un peu ce qu'on fait par la force des choses. Donc, c'est pour ça que les gens travaillent beaucoup, j'imagine.
100%. Oui. L'étude démontrait justement que le problème, c'est qu'on pense que le bonheur est à l'extérieur de soi plutôt que de regarder dans des choses très simples comme créer des relations saines autour de soi, nourrir les relations qui nous entourent. Tu sais, ça a l'air d'être banal ce que je dis, mais veux, veux pas, ils ont étudié différents cas. Puis c'est ça qui est intéressant dans le livre, c'est qu'on suit différents individus. Tu sais, il y en a qui sont plus solitaires, il y en a qui ont des grosses familles. Et ben une des clés, justement, une des trois idées clés qui est dite, c'est que les relations saines sont la clé du bonheur, mais pas juste du bonheur, de la longévité aussi, parce qu'il y a un impact sur ta santé physique et mentale.
Mais oui.
Donc, tu sais, on oublie un petit peu l'essentiel, puis j'ai plein de citations que je trouvais tellement belles dans ce livre-là, parce que justement, Mel, ça allait exactement dans ta ligne de pensée, c'est-à-dire que on passait à côté des choses à force de toujours vouloir arriver à une étape que la société nous dit d'arriver, tu sais. Comme par exemple avoir un plus grand appartement, avoir une meilleure voiture, avoir un chalet, tu sais. J'aurai le bonheur quand, tu sais. Alors que le bonheur, il n'y a pas de destination, tu sais. Puis souvent, on le voit comme une destination. Puis j'ai vraiment comme pris des citations coup de cœur aussi que je voulais comme vous pitcher à la fin. Mais là, je vous en dis une, mais ça ressemble beaucoup à ce que tu disais finalement. T'sais, le véritable bonheur n'est pas une destination finale. C'est un voyage.
C'est une façon de voyager, oui.
C'est un voyage qui comprend des expériences positives et négatives. T'sais, mais il n'y a pas de destination finale. Fait que je pense que quand on oublie de penser un peu de façon linéaire, comme la société nous invite parfois à le faire, malheureusement, ben on voit ces pépites-là de bonheur au quotidien, t'sais, dans des petites choses.
Tu as déjà parlé d'ailleurs de l'horloge sociétale.
Oui,
qui nous met une énorme pression.
Et moi, ça m'intrigue ça, là, le concept de l'horloge, parce qu'on parle souvent de l'horloge biologique, mais très peu de l'horloge sociale. Et ça, c'est un concept qui m'avait énormément marqué dans le livre. C'est très bien défini.
Oh, c'est dans ce livre-là?
Oui, exactement. Oui, parce que j'avais fait une capsule là-dessus, ça m'avait trop marqué. Ce livre-là, je l'ai lu là, sur plusieurs mois, là, on s'entend. Là, ça m'a comme habité vraiment longtemps. Puis aussi, ce que je trouvais intéressant quand on parlait du retour des regrets, là, mais c'est un peu triste, là, mais le regret le plus partagé, c'était justement le travail, on passe trop de temps. Mais le regret le plus partagé par les femmes de l'étude, c'était celui d'avoir consacré trop de temps, d'énergie et d'importance au regard des autres. Ça, je trouvais une tristesse sans nom, là. Mais je pense que ça tend à changer, mais la comparaison dessus, là.
Mmh. Ouais. Est-ce que c'était d'une génération à une autre? À partir de 1938 jusqu'à aujourd'hui, c'était ce dont les femmes regrettaient le plus?
Oui, exactement. Là, c'est celle qui était interrogée, qui avait été vocale sur le sujet, c'était les personnes en fin de vie. Donc, on comprendra qu'il y avait eu plusieurs années pour expérimenter le tout. Mm-hmm. Alors, peut-être que c'était une génération de femmes aussi qui était beaucoup plus dans le paraître puis la comparaison, mais j'ai l'impression que c'est encore d'actualité, malheureusement.
T'sais. Mais je pense que ça a toujours plus été, jamais, parce que dès que madame sortait de la maison, il fallait qu'elle soit bien habillée, qu'elle se présente, tu sais, pour aller à l'église ou whatever. Ouais. C'était des trucs quand même qui étaient importants pour elle, même à l'époque, tu sais, les chapeaux,
ils ont quand même pris la peine de séparer les résultats en disant, tu sais, pour les femmes, majoritairement, c'était d'avoir trop mis d'énergie là-dessus.
À partir du moment où tu te libères de ça, là, du regard des autres, t'es-tu bien?
Ouais.
Ah, puis on vous aime naturel, sérieux.
Ah, mon Dieu, moi, j'aime tellement ça, l'authenticité. Je m'entoure de gens là, qui ont un petit peu cette espèce de laisser-aller-là de « Hey, on s'en va-tu en pyjama? » Voyons, ça va-tu aller, mes mots? Ça, je ne sais pas. Ah, oui.
Moi, j'ai un choix. Les syllabes, après ça, ça fait des mots, des phrases, des paragraphes.
En vrai, je suis en pyjama, puis je vous parle, puis je pense que je suis trop relax. Mais ce que j'allais dire, c'est que, tu sais, de juste aller à l'épicerie en pyjama, puis de pas avoir peur des regards des autres. T'sais, je sais pas si vous comprenez.
Ouais, ça, l'épicerie en pyjama, c'est un peu trop, là.
Non! Ah, c'est trop!
Moi, je suis le gars, je suis le premier qui se promène en gogoune n'importe où. T'es en gogoune depuis le mois d'avril.
Je suis venu en pyjama l'autre jour à radio. Je savais qu'on n'avait pas d'invité.
Oui, c'est ça.
En fait, c'est des petites rébellions qui se faisaient pas dans d'autres époques. Ouais. Je suis comme tellement contente de pouvoir le faire. Puis je m'entoure de gens un peu comme
c'est
ça.
C'est une anarchie vestimentaire.
Ouais, juste parce que j'ai le goût d'être en pyjama, tu comprends?
Mais aujourd'hui, ça rejoint même, tu sais, sur les réseaux sociaux.
Ouais.
Autrefois, moi, c'était super important pour moi, quand je postais quelque chose, la portée que ça avait. Ce post-là, il n'a pas pogné autant parce que moi, c'était beaucoup pour mon entreprise, tu sais, que je postais sur les réseaux. Aujourd'hui, là, surtout qu'avec les algorithmes, on sait bien qu'on ne sait plus trop c'est quoi la portée et tout. Je poste et je m'en fous là, de qui voit quoi. Je me dis, si ça touche quelqu'un, tant mieux. Si ça rend service, tant mieux. Mais il y a des gens pour qui c'est encore hyper important et surveille au profil près là, qui va liker, qui va regarder. Ça, c'est épouvantable. Là. Ça doit être lourd. Là.
C'est malsain.
Ben, 100%. Puis, tu sais, dans les idées clés, justement, de la recherche, il disait qu'on ne sait pas toujours ce qui est bon pour nous. Tu sais, avec le fameux concept qu'on est dans une société où on mesure le succès constamment, le statut social en fonction de nos revenus, nos possessions, nos diplômes, mais aussi nos nombres de followers. Tu sais. Mm-hmm. Puis, c'est rendu que la technologie est supposée de faciliter la connexion, mais est-ce qu'elle le fait vraiment dans les faits? Bien, pas tant que ça, en fait. Au contraire, elle enlève une connexion réelle, une connexion significative. Fait qu'au final, c'est une deuxième idée clé qui est vraiment traitée dans le livre, c'est on ne sait pas toujours ce qui est bon pour nous. Puis pourquoi on ne sait pas toujours ce qui est bon pour nous? Bien, je te ramène avec le piège de l'horloge sociale, Mel, que tu as abordé un peu tantôt. Fait que le concept de l'horloge sociale, c'est qu'en fait, là, ça a été développé par Bernice Neugarten. Et c'est qu'on serait, selon notre culture et notre société, sur un calendrier d'événements. Fait que mettons, OK, à tel âge, tu es supposé avoir un enfant. À tel âge, tu es supposé te marier. Et ça, là, cette horloge-là, on l'a à l'intérieur de nous. on vit de la pression à différents niveaux, dépendamment d'où on vient, mais il reste qu'elle est en nous et c'est ça qui fait que des fois, tu te sens en retard dans les grands événements de ta vie. Tu sais, des fois, moi, je regarde beaucoup au niveau de la maternité, au niveau genre de, tu sais, les relations significatives avec les autres. Moi, je suis un peu champ gauche dans ma façon de vivre mon horloge sociale, puis des fois, je trouve ça confrontant, tu sais. Fait que moi, ce concept-là de savoir que OK, ça a été étudié, c'est la société aussi qui nous amène.
Tu serais bien dans tu serais totalement bien et à l'aise dans ta situation si c'était pas de la société, dans le fond.
Bien, c'est que des fois, j'ai un malaise parce que je me reconnais pas dans les modèles typiques de où je devrais être rendue dans la vie, entre guillemets, mettons. Mais je le sais qu'il y a plein de gens dans la trentaine qui sont, et je dis dans la trentaine parce que je pars d'un vécu, là, mais je pense que ça peut arriver dans la vingtaine aussi, mais qui sont un peu dans cette espèce de dilemme-là de je suis bien ou je suis dans la vie. Ouais. Hey, moi, là, j'ai commencé le stand-up, j'ai lâché mon 9 à 5, j'ai quitté le milieu éducatif, puis je me suis dit, OK, je vais être une saltimbanque qui va dire des choses pertinentes, mais à sa façon. Puis, c'est pas un chemin typique, tu sais, je le sais. Fait que, puis c'est une façon de parler, le saltimbanque, là, vous comprendrez, mais l'affaire, c'est que c'est pas un chemin qui était tout tracé, puis c'est pas celui-là qu'on m'invitait à prendre nécessairement avec l'âge que j'avais, tu sais.
Oui.
Fait que, ouais, c'est
très intéressant.
Oui, 100%. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se rejoignent dans cette espèce de pression là, de l'horloge sociale. Puis, après ça, ben là, eux, ce qu'ils disent, c'est pour éviter ce piège-là, c'est d'éviter de mesurer votre bonheur, votre réussite en fonction des objectifs puis des réalisations des autres. Fait qu'autrement dit, l'esprit de comparaison, il faut l'enrayer du processus. T'sais, si un jour, tu vas atteindre le bonheur, la seule personne à qui tu peux te comparer, c'est toi-même puis par rapport à ce qui te tente vraiment. Quand même tu n'es pas marié à tel âge ou que tu n'as pas genre 3 enfants, mais c'est pas grave. C'est ton parcours à toi. T'sais.
C'est fou parce que tout ce que tu dénotes depuis le début et tout ce que tu rapportes sur le livre est surtout axé vers les autres. Comme quoi, on accorde beaucoup d'importance à ce que les autres pensent, à ce que les autres veulent de nous, à ce que les autres aimeraient qu'on fasse. Donc, le bonheur, il est tendre dans nous. Là, comme tu disais au début, c'est pas une affaire de « Ah, cette personne-là, elle aimerait ça que je sois ci ou que je devienne ça ou que je fasse ça. » Le bonheur, le vrai bonheur, être heureux, ça part au début de nous, dans nos imperfections, puis c'est ce qui crée notre unicité, c'est ce qu'on comprend un peu.
Bien, 100%. Puis aussi, tu sais, pour revenir à ce que tu disais, Max, un petit peu plus tôt, genre, c'est que l'affaire, c'est que le troisième idée clé, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour changer notre façon d'être, dans le sens où, peu importe d'où tu viens, en termes, tu sais, on a toujours le pouvoir de choisir comment réagir à nos circonstances en acceptant les choses qui sont hors de notre contrôle, et en abordant les problèmes que nous pouvons gérer. Fait que ce que ça a démontré l'étude, c'est que même si tu avais une éducation X, Y, Z moins avantagée, tu pouvais quand même être heureux au final. Les gens qui étaient dits comme étant heureux et épanouis n'étaient pas nécessairement les plus aisés. Et ça, c'était intéressant parce qu'on parlait de passation de génération en génération, comme quoi, peu importe les circonstances dans lesquelles tu vas naître, le bonheur, c'est quelque chose qui se tricote au quotidien, tu sais.
Oui.
Même si, oui, il y en a qui vont être plus avantagés, exemple au niveau des besoins, on va dire, de base, de la pyramide de Maslow. Sauf qu'après ça, comment toi, tu cultives ta réalité, ça t'appartient, puis tu peux toujours la changer. Fait qu'il n'y a pas de « Hey, j'ai été malheureux toute ma vie, je vais être malheureux. » Non, tu sais, il y a comme une espèce de plasticité intéressante là-dedans aussi. Fait que ça, c'était pas fataliste, puis j'aimais ça. Et un des trucs qu'il donnait pour justement être capable de changer sa mentalité face à ce bonheur-là, qui soit pas... qui ne viennent pas de l'extérieur, ton bonheur, mais qui viennent de l'intérieur, c'est de pratiquer la curiosité radicale qu'on appelle. Ouais. Et ça, c'est apprendre à connaître les gens autour de vous. Comme ça, c'est comme ça que tu évolues. C'est en t'intéressant à l'autre, en posant des questions sur leur vie, ben, tu apprends d'eux, mais tu apprends aussi sur toi.
Ouais, ben, vas-y, maintenant. Ouais.
Ben, en fait, ben, c'est que tu en découvres. Tu découvres, en fait, que c'est pas plus vert chez eux, donc ça peut peut-être aider à cesser de se comparer.
Mais cette curiosité-là aussi, elle est un synonyme de l'intelligence à un certain niveau. Puis je suis curieux de savoir, dans l'ouvrage que tu as lu et l'ouvrage que tu nous décris, je ne l'ai jamais lu, est-ce qu'ils font un corollaire avec un niveau d'intelligence plus élevé apporte un plus bas taux de bonheur, à contrario de quelqu'un qui est un peu moins élevé sur l'échelle du QI, pourrait avoir le bonheur plus facile parce que ben, l'ignorant ignore tout de son malheur, là, finalement?
Tellement intéressant parce que, tu sais, des fois, on dit genre, ceux qui sont bien heureux, ben, ils sont juste comme des heureux un peu innocents parce qu'ils n'ont pas tout comme les informations. Mais non, c'est vraiment un choix. Ils vont vraiment mettre le bonheur comme étant quelque chose qu'on construit, quelque chose qu'on peut choisir au quotidien. Ils ne font pas de ratio avec le QI en tant que tel sur des exercices spécifiques. ils partent davantage de des bagages socio-culturels différents. Fait que c'est vraiment intéressant aussi parce qu'ils ont une belle représentation de la population. Fait que c'est pas juste sur une strate d'individus de telle strate sociale, socio-économique, par exemple. Fait que ça, c'est vraiment le fun pour la mixité aussi. Fait que ça rend l'étude encore plus riche, encore plus crédible. Il y a des tonnes d'informations. Puis même, petit coup de cœur sur la façon dont le livre est fait, il y a des petits exercices. Fait que, tu sais, nous qui aimons les exercices,
Es-tu heureux, coche oui ou coche non?
Non, c'est ça, c'est pas ça, Max. Merci quand même là, de la proposition, mais c'est quand même plus élaboré. Mais notamment, il parle des types d'amitié qui nous nourrissent différemment.
Oui.
Ouais, ça, c'est vraiment intéressant, ce chapitre-là sur l'amitié. Tu sais, chaque chapitre est un livre, c'est pas une blague là, quand je vous dis ça. C'est vraiment très riche. Et on peut placer sur l'axe, en fait, en fonction de chacun de nos amis. T'sais, c'est vraiment le fun de faire ça, genre une espèce de ménage social, tu vois. Tu prends ta gang d'amis, puis tu te dis, OK, mais telle personne m'apporte telle chose. Puis on a tout le temps des amitiés qui vont nous apporter différentes choses.
On dit qu'on serait la somme des 5 personnes qu'on côtoie.
Oui.
Est-ce qu'il en parle de ça dans le livre?
Bien, il en parle dans le chapitre amitié. Là, c'est sûr que c'est assez costu. Là, fait que je ne me souviens pas exactement toutes les phrases non plus. Mais j'ai beaucoup aimé cette portion-là parce que souvent, quand on évolue dans la vie, on change d'amis. Avez-vous déjà remarqué ça? Et il n'y a pas de hasard là-dedans. C'est que justement, tu vas t'entourer aussi de gens qui vont te nourrir dans ce vers quoi tu veux aller.
Oui.
Ça, des fois, c'est difficile aussi.
Là, ce livre-là, là, c'est incroyable.
C'est difficile des fois de laisser aller des amis. Je ne sais pas pour vous, là, si vous avez déjà eu des amitiés qui se sont terminées.
Les ruptures amicales, je trouve quasiment que c'est des fois plus difficile que les ruptures amoureuses.
Exact. Alors que c'est juste synonyme d'évolution, peut-être?
Oui, bien, en fait, c'est qu'on va pas dans la même direction. Fait qu'à un moment donné, c'est comme normal de se laisser puis de se dire bye, tu sais. Mais c'est crève-cœur parce qu'on n'a pas de bonne raison de le faire, entre guillemets, dans le sens où quand on est en rupture amoureuse, bien, la relation se termine. Tandis qu'en amitié, pour qu'une relation se termine, tu sais, c'est quoi que ça prend? Ça prend un gap, tu sais. Puis il y a eu des podcasts aussi là-dessus. Pis...
Parfois, ça se fait comme naturellement aussi, je pense. Ouais. Il y a juste un éloignement qui se fait.
Oui, il y a de tout. Il y en a qui vont questionner, il y en a qui vont confronter, il y en a d'autres qui vont juste comme. C'est justement, ça va tranquillement se défaire. Puis ça, je pense que c'est l'idéal comme rupture amicale. Mais des fois, c'est rough, là. Des fois, tu es confronté à une discussion puis tu es comme, ben je trouve qu'on n'est plus sur le même tempo. Oui,
mais il y avait je vais citer un rappeur là, que j'aime beaucoup, Oxmo Puccino, qui disait que la vie, c'est juste une suite de chemins qui se croisent et se séparent. Et c'est un peu ça.
Oui. Bien, si tu as la chance d'évoluer plusieurs années avec une amitié solide, c'est que vous allez dans la même direction, bien, tant mieux. Tu sais, vous êtes sur le même tempo. Mais c'est vrai que c'est plutôt rare, tu sais, parce qu'on prend tellement de tangentes différentes. Puis je pense que c'est bien aussi parce que chaque personne arrive sur ton chemin. On dirait, ben moi, c'est un peu ma philosophie, mais on dirait que chaque personne arrive sur ton chemin pour t'apprendre quelque chose à quelque part. Tu sais. Fait que tu rencontres les gens au bon moment aussi, souvent. Là, tu sais.
Oui.
Il y a des gens que tu aurais rencontrés il y a 5 ans, tu n'étais pas prêt à les rencontrer. Là.
Puis ça se peut que tu aies beaucoup de connaissances puis que tu aies juste un ou deux vrais amis aussi.
Ah, moi, j'ai très peu d'amis, mais mes amis, c'est comme des amis de grande qualité, là, on dirait, tu sais, avec le temps.
Vraiment. Les citations sur le bonheur, là, est-ce que tu as... j'avais déjà lu quelque chose, là, mais en tout cas, je vais l'adapter, là, mais c'est « Le bonheur ne dépend pas vraiment de ce que l'on possède ou ce que nous sommes. Il dépend d'abord et surtout de notre façon de penser. » Es-tu d'accord avec ça?
J'aime vraiment ça. Ben, ça va vraiment dans le sens du livre aussi. Là,
parce c'est un peu ça, hein?
Ouais, il l'explique.
Je sais pas s'il parle aussi du niveau de vie des gens. T'sais, on dit que des gens qui gagnent jusqu'à tel salaire annuel, c'est des gens qui peuvent vivre aisément, qui sont bien, mais passer tel salaire, plus tu gagnes cher, moins tu es heureux.
En fait, il n'y avait pas cette corrélation-là aussi évidente. Toutefois, il y avait une phrase qui était vraiment intéressante qui disait « À partir du moment où ta pyramide, mettons, de besoins de base, elle est complétée avec ton argent, là, on jase, là, mettons, tout est bien répondu dans tes besoins. » C'est plus tant important de faire de l'argent au-delà de ça pour ton bonheur, on s'entend. Fait que ça va un peu dans le sens que ce que tu dis, mais c'est juste un peu moins intense comme corrélation.
C'est vraiment intéressant ce que tu dis, Mel, parce qu'on dirait qu'à un certain moment, quand tout devient accessible, c'est comme s'il n'y a plus rien qui est accessible.
Mais c'est pas que ça, en fait, c'est que là, tu t'es... Tu sais, il y a des gens dans la vie qui ont besoin de matériel, de voitures, de camions, de roulottes, de VR, de whatever.
Oui, mais ça plafonne à un moment donné.
Mais ça plafonne, non seulement ça plafonne, mais ça devient aussi un casse-tête. c'est des trucs qui sont stressants à gérer parce qu'au fil des saisons, il faut que tu t'occupes de ranger telle affaire. Un tombe en panne. Après ça, bon, on a acheté une maison dans le sud. Il faut l'entretenir, il faut la gérer. Fait que plus tu gagnes cher, plus tu possèdes de trucs. Moi, c'est drôle parce que hier, on a eu la discussion justement là, en échange d'une relation de nuit, en tout cas avec un vieux monsieur, 10 000 $ blablabla. Bon, il y en a qui disaient, moi, 10 000, je le prendrais. Mais moi, on dirait que j'ai pas besoin d'avoir bien de l'argent pour être... même si j'étais millionnaire, j'aurais pas une grosse maison. Parce que ce serait trop pour moi. Moins j'en possède, mieux je me porte. C'est comme du matériel, ça m'énerve.
Mais t'as une mentalité minimaliste. Ça,
oui,
c'est super.
Je sais pas si c'est super ou si c'est comme du... Je vois ça comme des problèmes. Tu sais, ça m'intéresse pas. Moi, je veux juste vivre des expériences plutôt que d'investir dans du matériel. Je veux investir dans des expériences.
Mais moi, tout ça me parle énormément, puis j'ai l'impression qu'on s'en va vers ce courant de pensée-là qui est un petit peu moins dans
la décroissance.
Parce que moi, en tout cas, c'est peut-être juste dans ma bulle. Puis là, je te parle, Mel, puis toi aussi, t'es là-dedans. Là. Mais moi aussi, là, tu sais, trop d'entretien, trop de responsabilités externes sur des objets. J'aime bien mieux investir dans des relations, investir dans des échanges. Puis juste vous dire que moi, ce livre-là, il a vraiment changé ma perception parce que je suis quelqu'un de quand même solitaire qui donne pas beaucoup de nouvelles dans la vie. Tu sais, j'ai l'air de rien, là, mais je vous parle en direct de mon cocon, là. Puis j'aime vraiment ça être dans mes affaires, tu sais. Puis j'ai réalisé que l'importance des relations puis de l'entretenir, les relations. Puis depuis, tu sais, j'appelle ma grand-mère une fois par semaine. Tu sais, j'essaie d'être vraiment plus... à l'affût d'entretenir mes relations, même si je suis loin de ma famille et tout ça, tu sais, physiquement loin. Puis, il y a un chapitre, là, je veux juste avertir tout le monde qui habite seul, faites attention à ce chapitre-là, ne l'écoutez pas là, en plein novembre grisou, là, ça va être difficile pour votre morale. OK, c'est une section d'un chapitre qui s'appelle « Les ravages de la solitude ». moi j'ai un livre audio là aussi, j'ai un livre papier puis j'ai un livre audio de ce... dans différents formats. Puis je l'écoutais durant une marche et là, le narrateur part et dit « Les ravages de la solitude ». Et là, je marche et il pleut à Sio et je suis seule et j'étais pas prête là, pour entendre toutes ces statistiques-là.
Ah ouais!
Je vais avertir les gens seuls. Faites attention quand vous êtes rendu à cette portion-là du chapitre.
Ben parce qu'une solitude saine quand même, j'imagine.
Ben oui, une solitude saine.
C'est une solitude saine, c'est juste que Les statistiques font mal, là, tu sais, comme, mettons, mais moi, j'en riais, là, tu sais, j'en riais, puis j'en pleurais, puis je ne suis qu'émotion, là, mais la solitude expose les humains au risque de maladies mentales et physiques, c'est un fait, OK? Puis nous arrivait avec, genre, des statistiques du genre, les personnes seules sont plus à risque d'avoir recours à des stratégies négatives pour faire face au stress. Puis là, moi, je suis comme, non, 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 ça, c'est faux. Moi, je m'ostine avec mon livre audio à ce moment-là, tu sais, je suis comme, non, non, non. Sauf que je repense à des situations où, tu sais, j'ai l'image de moi qui braille en criant de désespoir à cause de mon collier que j'essaie d'attacher pendant une heure parce qu'il n'y a personne qui est capable d'attacher la petite chaînette en arrière, tu comprends? Là, finalement, je le brise en deux puis je suis comme genre fâchée après moi-même d'être toute seule. Mais tu sais, c'est des petites situations niaiseuses, mais je suis comme, ah, tu vois, ce moment-là pourrait donner raison à cette étude-là, tu sais. Mais c'est dans les petites choses, là. Je vous dis pas que c'est un drame. Moi, ça m'a fait sourire, mais après ça, il y a des statistiques qui font peur, là, quand même. Au niveau de la solitude.
Mais c'est important d'être bien dans la solitude.
Oui,
c'est important de cultiver une solitude. Je pense que c'est le béaba du bonheur, finalement. C'est le béaba d'une quiétude, d'une sérénité avec soi-même.
Mais pour être bien avec quelqu'un, je pense qu'il faut d'abord et avant tout que tu sois bien avec toi-même pour faire de l'autre un plus puis pas un manque à combler.
Il ne faut pas perdre de vue le côté d'être en relation. Tu sais, c'est important, les relations humaines.
Bien sûr.
Puis juste être tout seul, là, apprendre à être seul sans les écrans, apprendre à être seul sans écouter un film, apprendre à être seul sans combler le vide de quelque chose
à faire.
T'as
des célibataires qui se vantent. Hey, moi, je suis célibataire depuis tant de temps, je suis bien tout seul. T'es pas tout seul, man. T'écris avec 20 personnes le soir.
Ouais, c'est ça.
T'échanges constamment, virtuellement, avec plein de monde. T'es pas tout seul.
T'es comme un petit Tinder à toi-même. Là.
Ben oui.
T'as des problèmes.
Tu sais, je trouve que ces temps-ci aussi, dans notre société, on a de la misère avec le silence. Moi, la première, le silence, j'ai réalisé, ne fait pas partie de ma vie, là. Moi, là, je lave ma vaisselle, mettons, j'écoute un livre audio, tu comprends? Après ça, justement, le soir, je vais parler à des amis sur Messenger, tu sais. Le silence, à proprement dit, est plus rare, j'ai l'impression, dans notre société actuelle, parce qu'on est tellement surstimulé, tu sais.
C'est vrai. Ferais-tu une retraite dans le silence, toi?
Moi?
Oui.
Oh mon Dieu, mais je pense que ça serait mon horreur. Moi, je parle tellement trop. Moi, je suis une verbomoteur comme toi, là.
Moi, je fais juste penser puis j'angoisse.
J'angoisse. Moi, quand je parle, je parle pas. Genre, ma face, elle parle. Genre, je pense qu'il me ferait, il m'avertirait parce que mon non-verbal est trop parlant. Tu vois ce que je veux dire?
Toi, Max, serais-tu ça?
C'est comme mademoiselle. Oui. Ça, c'était parlé.
Ah oui, moi, je ferais ça. Ben oui, je ferais ça demain matin, mais Max... je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait à quelques moments dans ma vie. Ouais, vraiment. Puis j'ai adoré ça.
Ah, as-tu fait Vipassana?
C'était pas des retraites silencieuses, okay. On s'entend, mais j'ai fait des. Bon, quand. Je me suis ramassé dans quelques endroits où j'étais pas dans une obligation de pas parler, mais dans un milieu où c'était pas conseillé de beaucoup parler puis de prendre du temps pour soi, maître.
Mais Max, t'es un vrai philosophe.
Bon,
genre, ça fit, on dirait, genre, je te vois dans un monastère, je suis comme oui.
Il va falloir que j'essaie, mais j'ai déjà voulu faire ça, peut-être un peu plus tard dans ma vie, mais c'est quelque chose que j'apprécie, moi, cultiver le silence, puis juste combler le vide avec mes pensées, puis voir où est-ce que ma tête m'amène. La plupart du temps, c'est un exercice qui est... tu sais jamais dans quoi tu vas atterrir. C'est ça qui est étrange, parce que tu peux atterrir dans des démons, comme tu peux atterrir dans des pensées créatives, dans des belles choses.
Ouais.
C'est comme une surprise, puis tu te laisses aller.
Moi, c'est
à toi de te ramener quand
embarque,
ça va pas bien.
On dirait dans ma tête.
La musique embarque?
J'ai toujours une toune dans ma tête.
Tu prends-tu des pilules pour ça?
Non, <okay. rire> non, mais on dirait que dès que je suis dans le silence, je chantonne.
Mais c'est vrai qu'on n'est pas habitué à ça.
Oui.
Mais moi, j'ai développé quelque chose d'un peu inquiétant. Là. En tout cas, je me sens dans un safe place parce que je vais vous en parler, mais...
Ouais.
Je suis rendue que je me parle à voix haute dans mon appartement. Je suis comme, bon, parfait, ça c'est fait, ça c'est fait.
Ah, mais ça c'est bon.
Oh, oui, je pensais que c'est un signe d'intelligence, mais ça
oui,
que
c'est
j'ai
un
lu.
Signe d'intelligence, effectivement.
Est-ce que c'est en train de me rassurer sur mon plus
grand genre? Ah, ouais, oui, moi j'ai fait ça. Puis je...
Et que j'aime ça.
Allez,
j'aime
beaucoup.
Toujours ça, nos échanges. On dirait que je ressors de là moins complexée.
Là, par contre, il nous reste 13 secondes.
Ouais, okay. Mais
on va le dépasser un petit peu, mais il nous reste vraiment pas beaucoup de temps en quelques minutes.
Ah non, mais moi, c'était fini. J'ai tout ce que j'avais à dire. Je suis fière de moi. Écoute, on a passé à travers toute cette grande matière-là. Mais en gros, je donnerais la note finale de 4 sur 5 juste parce que c'est très... C'est volumineux. Il faut vraiment être prêt pour 450 pages.
Ah, mais c'est pas
si vrai. Puis moi, c'est juste qu'en ce moment, ma vie est un peu, dans tous les sens. Fait que des fois, c'est dur pour moi.
Mais 450 pages, c'est pas si pire que ça, me semble.
Je le sais, Max, mais on dirait
Non, mais il est quand même gros, là.
Non, il est trop gros, ce livre-là. Mais j'ai beaucoup aimé, je recommande, je le prendrai en format audio. Puis sinon, il y a une application pour résumer les livres quand vous êtes des férus de livres. Ça s'appelle Uptime. Allez faire un tour là-dessus. C'est une belle solution. Puis ça peut vous résumer des gros livres des fois quand ça vous décourage. Puis c'est des livres qui vous intéressent. C'est une découverte que j'ai faite récemment parce que j'adore la lecture, mais j'ai pas toujours la patience de m'asseoir puis lire des grands livres.
Comment t'appelles ça? Uptime?
Uptime. Allez faire un tour là-dessus. Un petit essai d'une semaine.
Uptime.
Ouais. Excusez-moi. Uptime.
Yes.
Et c'est en français, n'ayez pas peur. Donc, vous pouvez aller faire un petit essai de une semaine là-dessus gratuitement. Puis sincèrement, pour ceux et celles qui travaillent dans le milieu de la rédaction ou qui ont beaucoup de livres à lire pour faire du contenu, ça vaut vraiment la peine.
Génial. Laurence C. Germain, merci beaucoup pour cette belle chronique littéraire pour Humain Investi. On se rejoint de quelle façon?
Ah, ben là, allez sur Instagram, l'eau, donc L-A-U-C, Germain. Et vous pouvez aussi me trouver sur TikTok. TikTok, je suis un peu moins active, mais tout se retrouve sur Instagram. J'écris des articles pour Urbania. Je fais toutes sortes de choses, des petites chroniques à la radio. Et puis, je fais du stand-up, comme tu l'as dit, Mel.
Génial! Merci beaucoup pour cette belle chronique littéraire pour Humain Investi, Laurence C. Germain. Ça a été un plaisir, encore une fois, de t'avoir avec nous. On va fort probablement te reparler peut-être une dernière fois là, avant la fin de la saison. On reviendra ensuite l'automne prochain, si tout va bien.
C'est super. Ben, merci tellement de m'avoir accueilli. C'est toujours un plaisir. Alors, un beau bonjour aux auditeurs et merci encore une fois.
Gros plaisir. On tente d'aller te voir sur scène très bientôt. Laurence C. Germain, merci beaucoup, chers auditeurs et auditrices, d'avoir été des nôtres tout au long de la soirée. Ça a été un plaisir également de vous lire sur le live. Merci, Max.
C'est moi, ça, Max.
Toujours un plaisir de travailler avec toi.
OK.
Toujours.
J'ai oublié mon nom, c'est moi, ça, Max. Merci à toi, man.
Merci, chers auditeurs et auditrices. Vous étiez à l'écoute de La Sexploratrice sur les ondes de choix, 98h à 2X.
La Sexploratrice. Avec Mel Trudel. Radio X.